France Inter.
Un point sur les informations avec Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, une cinquantaine de blessés à Strasbourg dans une collision entre deux tramways bondés en ce week-end de solde. 130 secouristes sont mobilisés. Jean-Marie Le Pen repose désormais auprès de son père dans le cimetière de la Trinité-sur-Mer. 2 heures de messe et quelques chants marins nous rejoindront. Élodie Forêt. Dans une heure, Mayotte sera placée en vigilance rouge dans l'attente d'un nouveau cyclone attendu demain matin. Nous verrons comment l'hôpital de Mamoudzou se prépare à accueillir d'éventuels blessés. Et puis nous irons à Berlin, à 6 semaines des élections générales. L'extrême droite de l'AFD et les sociaux-démocrates du SPD ont intronisé leurs candidats respectifs. Et puis le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta, un temps froid et sec.
Oui, encore une journée anticyclonique avec un soleil qui va s'imposer au fil des heures et des températures en baisse.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
BNews et Cornemuse aux obsèques de Jean-Marie Le Pen cet après-midi à la Trinité-sur-Mer. Environ 200 personnes avaient été conviées par la famille dans la petite église et il y en avait autant massées à l'extérieur pour rendre hommage donc au fondateur du FN. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
En direct de la Trinité, malgré quelques craintes, les obsèques se sont déroulées dans le calme.
Oui, la préfecture craignait des débordements. Aux abords de l'église, il n'en a rien été. Venu rendre un dernier hommage des Trinitains, quelques hommes âgés aussi et leur béret des régiments para. Et puis ces fans de Jean-Marie Le Pen, comme Paul, 21 ans, il habite Ajaccio.
C'est pas ma génération, mais c'est un attachement, un patriote, un nationaliste et un français comme on aime, quelqu'un qui a pas eu peur de montrer ses idées. Et je trouvais ça important d'être à ses côtés et de l'assister dans son dernier chemin.
Et seule l'apparition d'un groupe d'hommes cagoulés tend l'ambiance. Mais le silence se fait derrière le corbillard. Marine Le Pen, sa sœur Marie-Caroline et une partie de la famille arrivent, rejoignent dans l'église les vieux compagnons de route de Jean-Marie Le Pen. Alain Jamais, qui a participé à l'action du FN, Bruno Gollnisch, Jordan Bardella est également présent. Tous prennent ensuite le chemin du cimetière au son des binious. Sur la route, des applaudissements dans la procession et au balcon. Et dans le cimetière, un chant marin, Jean-Marie Le Pen, le diable de la République, repose désormais dans le caveau familial après une vie tumultueuse, des adieux dans le calme.
Élodie Forêt en direct de la Trinité-sur-Mer avec Julien Girard. Une autre cérémonie religieuse sera ouverte au public jeudi prochain à Notre-Dame du Val-de-Grâce dans le 5e arrondissement de la capitale. Le Premier ministre François Bayrou a loué le courage d'Anne-Marie Comparini, l'ancienne présidente de la région Rhône-Alpes. Elle était son alliée de longue date. Les obsèques d'Anne-Marie Comparini ont eu lieu cet après-midi à Lyon. Elle avait 77 ans. Cela fait partie des accidents de circulation extrêmement rares. À Strasbourg, cet après-midi, deux tramways se sont percutés frontalement dans le tunnel desservant la gare. Il y a au moins 50 blessés, Sarah Mansoura.
Oui, puisque la collision a été assez brutale. Elle a lieu effectivement à quai, dans cette station située sous la gare de Strasbourg. Plus d'une centaine de personnes ont été impliquées dans l'accident, une cinquantaine blessées plus ou moins légèrement, quelques fractures, des entorses, des contusions. La moitié de ces blessés ont été hospitalisés, selon René Cellier, c'est le patron du SDIS dans le Rhin.
Beaucoup de traumato, quelques chocs. Bon, après, des gens qui prennent ça avec le sourire, j'allais dire, et puis d'autres qui sont un peu plus choqués. On n'a pas d'urgence absolue, ça aurait pu être beaucoup plus grave.
D'après les premiers éléments dont on dispose, un des deux trams était à l'arrêt et le deuxième a fait un mouvement non prévu vers l'arrière. Emmanuel Honneau, le directeur de la compagnie des transports strasbourgeois, évoque comme première piste celle d'un embouteillage de rames en gare de Strasbourg.
Il y a eu des manifestations dans le secteur. Il fallait réorganiser et mettre en attente un certain nombre de rames. Et il y avait un embouteillage et cette rame a été bloquée. Cette rame qui était arrêtée a des freins apparemment. On ne sait pas pourquoi. Erreur humaine, problème matériel, tout ça c'est à vérifier, n'a pas réussi à rester bloqué et donc s'est mis à reculer.
Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un conducteur et une conductrice dans chacun de ces trams. Ils pourront peut-être apporter des précisions sur les circonstances de cet accident. Il faut rester prudent et attendre les résultats de l'enquête, prévient ce soir la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian.
Sarah Mansoura, voilà les propos de Gérard Larcher qui ne vont pas faciliter la tâche de François Bayrou qui négocie en ce moment sur une éventuelle suspension des retraites. Et bien ce soir, Gérard Larcher dit ne pas vouloir ni suspendre ni abroger la réforme des retraites, il le dit dans une interview à paraître demain dans Le Parisien. Les relations ne cessent de se dégrader entre la France et l'Algérie. Cet après-midi, Alger a rejeté les accusations d'escalade formulées par Paris. Alger dénonce une campagne de désinformation. Hier, le ministre français des Affaires étrangères s'était dit stupéfait de l'attitude des autorités algériennes qui ont renvoyé vers la France un influenceur algérien que Paris venait justement d'expulser. Jean-Noël Barrot menace désormais de mener des ripostes envers Alger. Eh bien écoutez ce qu'en dit la journaliste Mélanie Matarez. Elle est auteure, autrice du livre « Comment la France a encore perdu l'Algérie ». Elle estime qu'entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, les relations devraient être un peu moins personnelles.
Ils ont enfermé la relation bilatérale, ils l'ont conditionnée à leur bonne entente et leurs décisions n'ont pas ruisselé. Tout ce qui a été décidé, notamment en 2022, tout l'accord d'Alger en fait, rien ne s'est fait. Alors que normalement, il devrait y avoir des mécanismes, des structures pour que les diplomates, les fonctionnaires, les chefs d'entreprise, toute l'année, travaillent ensemble. Et ça permet de faire avancer les dossiers, mais ça permet aussi de prévenir les crises. Tout ça n'existe pas. Donc quand il y a une crise entre les deux hommes, tout s'arrête. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut que la France travaille à recoudre la relation bilatérale en partant de la base, pas en partant du sommet. Mais aujourd'hui, avec le discours de Bruno Retailleau dans le gouvernement, ça me semble très compliqué. Et donc, il ne faut pas exclure une réponse d'Alger plus virulente qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant. Alors, je ne pense pas qu'ils iraient jusqu'à toucher à l'approvisionnement en gaz, mais enfin, ils considèrent qu'à leur niveau, ils ont des sanctions et ces sanctions seront adaptées à la réponse française.
À Mayotte, l'alerte rouge sera déclenchée dans une cinquantaine de minutes. Le cyclone Dikeledi devrait toucher l'archipel demain matin. Mayotte, déjà très abîmée par le passage de Chido. Cette fois, les Mahorais prennent la menace plus au sérieux. L'hôpital de Mamoudzou, en partie bâché désormais, l'hôpital se prépare à accueillir d'éventuels blessés. Explication à deux voix à Mayotte. D'abord avec Sergio Albarello, il est directeur de l'Agence régionale de santé. Suivi de Jean-Mathieu Defour, il est le directeur général de cet hôpital de Mamoudzou.
L'hôpital est en grande fragilité structurelle, comme vous le savez, après le passage du cyclone. Pour ce faire, nous avons aussi renforcé l'équipe soignante à travers la sécurité civile. L'hôpital civilo-militaire qui a été démonté hier par prudence, nous avons ventilé ses personnels et en particulier au sein de l'hôpital pour renforcer l'équipe chirurgicale et l'équipe du service des urgences. Et nous avons aussi un détachement de la sécurité civile qui sera à demeure à l'hôpital pendant tout le passage de la tempête tropicale.
Donc effectivement, nous nous sommes mis en plan blanc hein, depuis le passage du cyclone Chido, dans quelques cellules de crise qui fonctionnent, là, qui va fonctionner H24, 7 jours sur 7. Nous avons donc doublé les effectifs dans l'ensemble de l'hôpital pour être sûr d'avoir une permanence des soins pendant tout le passage du cyclone. Ces personnels seront positionnés tout le temps du passage dans les services pour être sûr d'avoir effectivement tous les personnels d'ici, même lundi après le passage du cyclone, en cas d'afflux de patients.
Propos recueillis à Mayotte par notre envoyée spéciale, Béatrice Duguay. Et si Gisèle Pelicot devenait prix Nobel de la paix? Alors nous n'y sommes pas encore, loin de là, même si une pétition circule sur le site change.org pour que celle qui est devenue un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes devienne donc Nobel de la paix. Pétition avec pour l'instant près de 62 000 signatures, Mathilde Ansker.
À l'origine de cette pétition, une Britannique, Catherine Mayer, elle est auteure, journaliste et fondatrice d'un parti féministe. Que Gisèle Pelicot soit nominée pour le prix Nobel de la paix, ça montrerait que la violence systémique contre les femmes est une forme de guerre. Il ne peut y avoir de paix tant que cela continue. Et même si elle n'est pas certaine que sa pétition fonctionne, pour elle, l'essentiel, c'est d'attirer l'attention du grand public. Ce que j'espérais en lançant cette pétition, c'est que tous ceux qui la
signes reconnaissent la guerre qui est en cours et reconnaissent ce qu'a fait Gisèle Pelicot. Ce serait merveilleux si elle obtenait aussi le prix Nobel.
En tout cas, cet avis ne fait pas l'unanimité, notamment au sein du collectif Nous Toutes. Muriel Trichet en fait partie.
Ça ne nous paraît pas pertinent, effectivement, de signer une pétition pour que soit sanctifiée en tant qu'icône une victime en particulier, parce que ça occulte pour nous la cause principale qui est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sans remettre en question, bien entendu, tout le combat et le courage et la détermination dont a fait preuve Gisèle Pelicot. Mais pour nous, quand on met en avant une personne, ça vient occulter toutes les autres.
Elle voudrait en revanche qu'un prix Nobel de la paix soit attribué collectivement à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles.
Et un second procès pour les viols de Mazan doit se tenir à la fin de l'année, 17 des accusés ayant fait appel.
France Inter, Éric Delvaux.
En Allemagne, Alice Weidel a été intronisée aujourd'hui candidate de l'extrême droite pour les prochaines élections générales. Ce sera dans 6 semaines. L'AfD tenait son congrès à Riesa, c'est en Saxe. Le parti envisage désormais de sortir de l'euro et aussi de l'Union européenne. David Philippot, vous êtes à Berlin. L'AfD tient un discours radical qui lui fait grappiller quelques points précieux dans la course à la chancellerie.
Dans un sondage INSA à paraître dimanche, l'AfD est même le seul parti à progresser plus 2 points à 22% des intentions de vote. Et effectivement, rien ne semble arrêter son ascension 3 semaines après l'attentat de Magdebourg qui a jeté un doute sur la capacité de l'État à protéger ses citoyens. Au mépris des éléments de l'enquête, Alice Weidel a répandu l'idée que le terroriste était islamiste. Dans un parti où l'immigration est la source de tous les problèmes, elle a repris à son compte, à la tribune, l'idée fixe des plus extrémistes.
Il faudra aussi mener à bien les expulsions à grande échelle. Et je dois vous le dire très clairement, si on doit appeler cela remigration, eh bien ce sera la remigration.
C'est-à-dire le renvoi dans leur pays d'origine de millions d'immigrés, même ceux devenus allemands. Les contre-vérités historiques lancées à l'occasion de sa discussion sur X avec Elon Musk, Alice Weidel a affirmé qu'Adolf Hitler était communiste, ne nuisent pas non plus à sa campagne. Elle bénéficie au contraire de la résonance offerte par le réseau social. Et une rencontre entre le conseiller de Donald Trump et la candidate est annoncée par la presse allemande à la fin du mois à Berlin.
Les incendies s'étendent encore à Los Angeles, même si les vents soufflent un peu moins fort. Des quartiers entiers sont réduits en cendres. Nous partons en direct à Altadena, comté à 20 minutes de Los Angeles. Bonsoir Sandrine Etoa-Andeg.
Bonsoir.
Vous êtes dans un paysage de désolation, de dévastation.
Oui, avec des habitants comme Tristan, toujours incrédule ce matin face à ces paysages apocalyptiques, ces milliers de bâtiments calcinés. Il se souvient qu'alors que tout le monde évacuait affolé par l'incendie qui descendait des montagnes, lui a décidé de rester. Et j'ai pu sauver ma maison et 2 autres derrière. En fait, un bout de terre a ralenti la progression des flammes. C'était comme s'il neigeait du feu. J'ai vu les palmiers s'enflammer comme des bougies géantes qu'on venait d'allumer. Regardez, toute la ville est à terre. Là, ce sont des commerces où je vais tous les jours. Là, c'est un restaurant qui existait depuis 50 ans. Tout est dévasté. Puis Tristan pointe ce problème. Il n'y avait pas d'eau, c'est ça le sujet. J'ai pu accéder aux bornes d'incendie, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait encore un petit filet d'eau qui coulait et j'ai pu éteindre les flammes autour de moi. Mais ça m'a fendu le cœur parce que mes voisins venaient me demander « Où t'as trouvé de l'eau? Aide-moi, s'il te plaît, ma maison !» Mais je ne pouvais rien faire, sinon j'aurais sacrifié ces maisons. Des habitants en colère qui dénoncent ce manque d'approvisionnement en eau. D'autres ont le sentiment que le quartier de Pacific Palisades, lui aussi touché par les incendies, et ses maisons de stars a été priorisé par les secours. Tristan balaie ses critiques. Ce qu'il s'est passé, selon lui, c'est Mère Nature qui nous envoie un message.
Sandrine Etoa-Andeg, en direct d'Altadena, près de Los Angeles, avec les moyens techniques de Laurent Macchetti. Le sport, avec les passionnés de tennis qui vont peut-être se lever à 1h du matin cette nuit pour suivre le début de l'Open d'Australie à Melbourne. Chez les hommes, un nom revient en force et il est italien, Fabrice Abgral.
Le grand favori, c'est Yannick Sinner. Le numéro 1 mondial tenant du titre va tenter de remporter son troisième grand chelem, le deuxième consécutif après l'US Open en septembre dernier. Carlos Alcaraz vise en Australie le seul titre majeur manquant à son palmarès, ce qui en cas de succès ferait de l'Espagnol à 21 ans le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté au moins une fois les quatre titres du grand chelem. Alexander Zverev, Casper Ruud et Taylor Fritz, déjà finalistes en majeur, visent une première consécration au plus haut niveau. Daniil Medvedev, lui, a déjà remporté l'US Open en 2021, et à Melbourne, le Russe a disputé 3 des 4 dernières finales, mais sans jamais avoir réussi à soulever le trophée. Et puis il y a Novak Djokovic, 10 fois vainqueur en Australie. Alors c'est peut-être là, aux antipodes, sur son terrain de jeu favori, qu'à 37 ans, le Serbe va entrer encore un peu plus dans l'histoire. Novak Djokovic, désormais 7e mondial, vise un 25e grand chelem. S'il y parvient, le Serbe, désormais entraîné par Andy Murray, sera le seul détenteur du record du nombre de titres majeurs, hommes et femmes confondus.
Voilà, et 7 Français disputeront demain leur premier tour à cet Open d'Australie. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec demain un temps calme et plutôt ensoleillé. Hein.
Oui, alors il faudra en tout cas sur la moitié nord attendre la dissipation de nuages bas encore nombreux au lever du jour, avec quelques brouillards givrants toujours présents, surtout au nord de la Seine. Mais après dissipation, là ça sera du soleil. Plus au sud, le ciel sera déjà lumineux dès le matin. En cours d'après-midi, on aura un ciel alternant nuages éclaircis au nord de la Loire. Soleil et vent pour la moitié sud, surtout dans la vallée du Rhône et les côtes méditerranéennes, avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 100 km/h.
Du soleil, et cependant les températures vont continuer de baisser.
Oui, on aura des gelées généralisées dans les terres, moins 5 à 0 degrés. On peut même atteindre les moins 7 degrés dans le nord-est. Les minimales resteront positives sur le littoral atlantique et près de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, ça ne grimpera pas beaucoup. 1 à 6 degrés d'est en ouest, mais encore 14-15 degrés vers la Côte d'Azur.
C'était Céline Dacosta.